France Inter.
The world around us does not stand still. In recent years, the global environment has been transformed in ways that none of us could have imagined. Sounds familiar? It should. Because I'm just quoting myself.
Le monde qui nous entoure n'est pas immobile. Ces dernières années, l'environnement mondial a connu des transformations que nul n'aurait pu imaginer. Ça vous rappelle quelque chose ? Bah ça devrait, parce que je me cite moi-même. À Francfort, la présidente de la Banque Centrale Européenne a ainsi commencé son discours par une citation sur la fragmentation de l'ordre mondial et les faiblesses de l'Europe. Vous l'avez déjà entendu, demande-t-elle à l'audience. C'est un extrait de son propre discours à son arrivée en novembre 2019. 6 ans plus tard, se répéter est donc une manière polie de griffer les politiques sans les accuser frontalement d'immobilisme. La Russie et le gaz, les États-Unis et les droits de douane, la Chine et les terres rares, le monde nous bouscule. Mais les décideurs ne se secouent pas assez, semble penser la patronne de la Banque centrale. Ils ne font pas évoluer notre modèle de croissance basé sur les exportations, orienté, dit-elle, vers un monde qui disparaît. Alors quand même, ça bouge à Bruxelles, en faveur des entreprises. Bruxelles qui détricote son pacte vert, qui assouplit ses règles sur l'intelligence artificielle, que souhaite de plus Christine Lagarde. Eh bien par exemple, la diminution des barrières internes dans le marché unique. Elles équivalent, dit-elle, à des droits de douane au sein des 27 de 65% sur les marchandises et 100% sur les services, des chiffres que je ne connaissais pas. Pour qui se souvient de la polémique du plombier polonais, des travailleurs détachés, le marché unique. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais dernière punchline de Christine Lagarde au sujet de la volonté politique. 6 années supplémentaires d'inaction et de croissance perdue, dit-elle, seraient non seulement décevantes, mais aussi irresponsables.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est samedi, c'est Économie, avec la bande, Valentin Pérez le coproducteur, Céline Hilla la réalisatrice, Anne-Cécile Perrin l'attachée de production, au mix Tilaï Ravu et à la technique encore Tilaï et Raphaël Rousseau. Tout le monde est là et vous salue, tout le monde est en place pour en savoir plus ce matin sur les agences de notation. Depuis la rentrée, les 3 grandes ont abaissé la note de la France. Quelles conséquences sur le terrain ? Que leur inspire le débat sur le budget au Parlement ? Le rejet il y a quelques heures dans la nuit de la partie recette n'est qu'un signe de plus de nos difficultés à trouver le chemin pour redresser nos finances publiques. Vous entendrez le reportage d'Alexis Morel, il nous fera pénétrer dans une salle de marché où l'on achète de la dette française. Et notre invité, c'est l'analyste principal pour la France de l'agence Moody's, il est vice-président de ce qu'on appelle le risque souverain. Interview assez rare de Peter Breman, ça sera vers 9h40. Madame Vieux-Boulot est au rendez-vous pour répondre à vos questions. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Et ce matin, vous nous annoncez une petite révolution dans le monde des classes actions à la française.
Oui, soyons optimistes pour une fois. Les actions de groupe n'ont pas brillé depuis leur création il y a 10 ans. Eh bien, ça pourrait changer. Je vous explique ça tout à l'heure.
Eh bien, on vous retrouve juste avant 10h. Mais d'abord, j'accueille nos débatteurs. Éric Heyer, bonjour Éric.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Et salut Jacques-Olivier Martin.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de la rédaction du Figaro.fr. Cet après-midi à 15h à Marseille, une marche blanche est organisée en hommage à Mehdi, le frère assassiné d'Amine Kessassi, ce militant écologiste engagé contre le narco-banditisme. À 4 mois des municipales, cette triste actualité met donc les pleins phares sur la diffusion de plus en plus large des drogues dans l'Hexagone et l'emprise des réseaux. C'est un commerce qui se porte bien et c'est notre prisme ce matin, décortiquer l'économie de la drogue avec cette question de fond. Comment est-ce qu'on étouffe un business illégal mais qui cartonne ?
qui s'est passé à Marseille, et notamment le meurtre du frère d'Amine, est un crime qui vise à faire peur et qui vise aussi à atteindre quelque part la République et l'État.
Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur.
Le dispositif que nous mettons en place est un dispositif qui est tout à fait similaire à ce qu'on a fait en matière de lutte antiterroriste.
Le terroriste, il a un objectif idéologique. Les narcos, ils ont un objectif strictement financier.
Bertrand Bonnet, professeur à l'EDEC.
Tout ce qui les guide, c'est le fric. C'est des obsédés de l'argent.
Titulaire de la chaire de management des risques criminels.
Moi, je suis l'économie de la cocaïne depuis le champ de coca jusqu'au labo, jusqu'au marché. Il n'y a aucun produit dans l'économie légale qui soit plus rentable. Il faut se réveiller tout de suite et agir, certes avec des policiers, mais il faut surtout agir économiquement.
Il faut remettre les choses dans l'ordre.
Philippe Cour, préfet du Val-d'Oise.
Ce qui caractérise le trafic de drogue, le narcotrafic, c'est que c'est un commerce. Un commerce qui est un commerce criminel, un commerce qui est sanglant, mais c'est un commerce qui est mu par un levier puissant qui est l'appât du gain. Et c'est un commerce qui se fonde d'abord parce qu'il y a des consommateurs et des acheteurs.
On a eu un processus d'ubérisation de cet approvisionnement stupéfiant.
Clotilde Champérache, maîtresse de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Livraison à domicile, il y a des fichiers clients, il y a des centrales d'appels, il y a un marketing extrêmement offensif. Et ça, ça change la donne au niveau du consommateur. Et quand vous recevez des SMS, des offres promotionnelles, ça vous enfonce encore plus dans cette consommation.
C'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafics.
Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement.
Et on ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail.
Le produit est moins cher.
Jérôme Durin, président socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Il est plus facilement trouvable et il se développe en consommation dans des milieux qui jusque-là ne le connaissaient pas. C'est plus une drogue festive, des CSP+, c'est la drogue des cuisiniers, des chauffeurs routiers, des marins-pêcheurs, des gens du BTP, de ceux qui ont des boulots difficiles parce que ça devient une espèce de dopant.
Voilà, on est sur notre périmètre, c'est le périmètre éco qui concerne la drogue. Jacques-Olivier Martin, est-ce que vous pouvez nous faire une photo du phénomène ?
Alors déjà, vous avez évoqué le mot commerce, c'est une filière complètement intégrée hein, de la production, comme une filière standard finalement. Donc il y a la production, la transformation, l'acheminement, la distribution. Ensuite, on prend les bénéfices et on essaie de les blanchir ou de les investir. Tout ça sans impôts. C'est une filière. Enfin, il faut se dire, alors quel est son poids ? Alors ça, c'est intéressant. Cette semaine, on est au Figaro, on a fait une interview de Roberto Saviano. Lui, il évoque le marché de la drogue illicite, de la cocaïne, à peu près 25 à 30 milliards par an. Quelques heures plus tôt, ou quasiment en même temps, Gérald Darmanin parlait de 5 à 6 milliards. Donc, on ne mesure pas forcément très bien tout ça, le poids réel. Mais si on partait sur, allez, 20 ou 30 milliards, je reviens à cette notion de filière économique.
Mais vous dites à quelle échelle ? À l'échelle
À l'échelle de la France.
À l'échelle de la France,
okay. À l'échelle de la France, on parle de 500, 600 milliards, peut-être à l'échelle mondiale. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette économie, c'est la taille d'une entreprise du CAC 40. C'est probablement des profits supérieurs à ceux du CAC 40. Donc on parle d'une économie dont le poids est très important.
Éric Heyer,
ouais,
économiste.
Oui, alors je ne suis pas complètement d'accord quand vous parlez de système intégré. Il y a justement ce que nous montrent les économistes de la drogue, c'est que tout en haut, la production, c'est des oligopoles, et tout en bas, c'est de la concurrence. Et ce n'est pas les mêmes acteurs. Donc on ne peut pas dire que ce soit complètement intégré. Et non, et c'est pour ça que c'est très important de savoir cela, parce que s'attaquer justement en bas ne touchera pas le
c'est
haut.
Sûr.
Et ouais. Donc ce n'est pas complètement intégré, et on n'attaque pas de la même manière quand c'est de la concurrence ou quand c'est des oligopoles. Ça, c'est le premier point. Ensuite, économie de la drogue, il faudra bien distinguer ce qui est légal et illégal. Et des fois, la frontière est un peu floue. Vous voyez, aujourd'hui, la grande crise, alors c'est pas en France, c'est aux États-Unis, c'est les opioïdes. C'est le fentanyl. Et le fentanyl, c'est devenu illégal, mais c'était parti de quelque chose de légal. C'était les industries pharmaceutiques et c'était des médecins qui faisaient justement des ordonnances pour en consommer. Donc, vous voyez, attention, l'économie de la drogue, ça peut être beaucoup plus important que ce que vous venez de dire, parce qu'on peut intégrer aussi tout ce qui est de la synthèse et tout ce qui est des médicaments. Et attention, la cocaïne et le cannabis, c'est pas la même chose. Et l'oligopole n'est pas pareil que la concurrence. Donc, allez, c'est pas aussi intégré que
okay,
tout ça.
Ok, vous nous avez apporté pas mal de nuances. Jacques-Olivier.
Deux petites choses. Peut-être répartir à peu près le poids des drogues. Aujourd'hui, à peu près la moitié du marché des principales drogues, c'est le cannabis. la drogue qui grimpe le plus de très loin, c'est la cocaïne. Déjà, à eux deux, ces deux drogues représentent à peu près 90% du marché. L'héroïne et les drogues de synthèse sont beaucoup moins importantes.
En France.
L'autre élément, voilà, en France, l'autre élément, c'est la progression, l'explosion de ce marché. Ça aussi, c'est une réalité. Le marché des saisies de cocaïne a doublé, je crois que c'était 50 ou 55 tonnes en 2024, on était à 25 tonnes en 2022. Donc clairement, probablement qu'on le capte mieux, mais il y a une forte progression de ce marché.
Est-ce qu'on sait, et comment ça s'explique? En gros, si on considère ça comme un produit, la cocaïne, Eric Heyer, est-ce qu'on sait pourquoi ce marché explose?
Alors d'abord, il faut quand même dire, puisque c'est souterrain, est-ce qu'on le mesure bien? Je ne sais pas. Est-ce que les saisies, c'est la meilleure façon de le mesurer? Peut-être pas, parce que globalement, vous voyez, on ne sait pas ce qu'on mesure avec les saisies. Est-ce qu'on mesure juste l'activité des policiers et des douanes? C'est à un moment, on dit, on met un peu plus de force pour essayer de le contrôler, ou est-ce que c'est les flux qui ont explosé? Ça, on n'en sait rien.
Vous voyez, quand même l'impression que ça gagne les petites villes, les moyennes villes.
Oui, on a l'impression, mais encore une fois, il faut quand même être très prudent. On ne sait pas comment on le mesure. Alors, c'est sûr que si on regardait, il y a des études qui le font par l'analyse des eaux usagées, ben là, on s'aperçoit que c'était déjà très important à l'époque. Donc, du coup, vous voyez, mais alors c'est bien, c'est un peu différent, vous voyez, et qu'on était déjà à Paris au niveau de ce qui se passait à New York et à Londres. Donc, vous voyez, les saisies, c'est compliqué, même si vous voyez les saisies, ça a plutôt baissé en 2023. Et donc, effectivement, vous avez raison de dire que ça avait augmenté très fortement depuis les années 90, mais ça a baissé en 2023. Est-ce que c'est une vraie baisse ou est-ce que c'est simplement, aujourd'hui, vous voyez que ça passe par des containers dans des ports et on ne contrôle que 2% de ces containers. Donc, vous voyez, c'est pas non plus extraordinaire. Il suffit que vous contrôliez mal ou moins bien ou plus, et ben vous avez des fluctuations. Mais c'est vrai que tout de même, il y a une augmentation. C'est pour ça que la submersion, c'est peut-être un terme un peu fort, vous voyez, parce qu'on n'est pas non plus dans un narco-État. L'État n'est pas capturé par ces cartels. Mais effectivement, on le voit maintenant un peu partout, c'est plus dans certaines catégories, c'est dans toutes les catégories socio-professionnelles, c'est dans toutes les villes, mais c'est certains quartiers qui sont maintenant effectivement complètement submergés, certains ports qui sont complètement submergés, mais vous voyez, c'est pour ça qu'une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas dire que c'est uniquement lié aux bobos parisiens.
Jacques-Olivier Martin, qui contribue? C'est pas uniquement lié aux bobos parisiens, ça, sur cette photo, vous êtes...
Oui, moi,
vous
je partage êtes... pas tout à fait.
Ouais, voilà, je vous voyais tiquer.
Non, ce que dit Eric, c'est vrai que c'est difficile, puisque par nature, c'est une économie souterraine. Donc, la mesurer, c'est difficile. On a quand même le sentiment que ce sujet du narcotrafic, et pas uniquement en France, dans tous les pays européens, c'est un sujet, c'est une préoccupation globale de nos sociétés. Donc, sa diffusion, on la voit, effectivement, loin de Paris, et ça, c'est quand même un phénomène nouveau. Donc moi, je suis absolument convaincu, notamment avec les saisies qu'on peut faire auprès des offices des douanes, qui le disent, les saisies sont aujourd'hui supérieures. Alors effectivement...
Ça a baissé en 2023, hein, ça c'est ouais, ce qu'ils
disent. Oui, mais ça augmente en 2024, donc c'est encore...
Il n'y a pas encore le 2024, j'ai pas vu le chiffre.
En tout cas, s'il y a une diffusion, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que le prix du gramme, ça c'est un fait économique, est abaissé, et ça c'est un phénomène qui s'explique?
Oui, mais ça effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas intégré, comme on l'a dit au tout début, c'est au contraire, c'est extrêmement fragmenté. Et en fragmentant, en fait, on a du taylorisme. En fait, en gros, l'économie de la drogue, c'est un peu le plus mauvais de notre mondialisation capitalistique. C'est-à-dire que globalement, il y a des spécialisations maintenant au niveau de la production, au niveau de la logistique, au niveau de la vente. Et donc, en faisant ce taylorisme, on a fait énormément baisser le prix, et notamment avec une concurrence très forte en bas au niveau des vendeurs. Et donc, et l'ubérisation fait que maintenant, il n'y a plus beaucoup de risques, finalement. Le risque a baissé à consommer et à finalement même à vendre, puisque, vous voyez, maintenant, les vendeurs n'ont plus beaucoup de grammes sur eux, parce qu'ils vont livrer directement à domicile, ils ne sont plus sur des points. Et donc, du coup, le risque est beaucoup plus faible. Si le risque est plus faible, ben, le prix baisse. Et si le prix baisse, ben, la consommation augmente
Et on voit que ça arrive à des catégories socio-professionnelles que vous citiez, qu'on a entendu dans le ZAP, qui n'avaient pas auparavant les moyens d'accéder peut-être à cette drogue dangereuse. Jacques-Olivier Martin, est-ce que tout à l'heure, Eric disait, il y a un sujet sur comment ça arrive. Ça, c'est vraiment la mondialisation, le capitalisme. Est-ce qu'on est trop laxiste sur, c'est la thèse de l'économiste Clotilde Champérache, sur les structures portuaires, sur les banques, sur toute cette économie légale qui finalement est là en soutien, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais parallèlement à l'économie illégale et qui est un peu intégrée aussi, elle.
Alors, on parle, une grande partie de l'acheminement se fait via les ports. Aujourd'hui, enfin, pour comprendre, globalement, la cocaïne, notamment, elle va transiter par des containers, on en met 20, 30, 50...
Ça vient d'Amérique latine, hein, de Colombie.
Au niveau de la cocaïne, mais sinon... c'est Colombie, Bolivie et Pérou.
Et donc, c'est réparti au départ dans des containers, beaucoup de containers, il y a des milliers de containers sur des bateaux. Et donc, une fois que ça arrive, le coût est très élevé de bloquer un bateau quand, dans un grand port européen. C'est quoi ? C'est peut-être 25 000 dollars ou 25 000 euros pour un conteneur. Donc, il y a une pression économique qui fait qu'on n'a pas trop envie de bloquer tous les bateaux. On ne peut pas non plus ouvrir ces 15 000 caisses. Un bateau, on ne peut pas tout ouvrir. Je ne dis pas que c'est bien.
C'est le système. C'est ça la photo.
C'est le système qui est comme ça. Oui. Il y a aussi peut-être les sanctions. Aussi,
on va en parler. Bah, justement, on est dans...
Ce qu'il faut dire, c'est que la France n'est pas laxiste sur les usagers. Au contraire, on est dans les plus répressifs. Et c'est nous qui consommons le plus, en tout cas, de cannabis. Peut-être pas de cocaïne, mais en
Pourquoi
tout cas de cannabis.
Pourquoi vous dites que c'est une amende aujourd'hui, si le consommateur...
Oui, mais ailleurs, ça a été... Dans beaucoup
200
de pays,
euros. 200
oui, c'est 200 euros, mais ailleurs, ça a été dépénalisé, souvent, dans beaucoup de pays.
Pas la cocaïne.
Mais le cannabis. Je pense que tout ça se nourrit. C'est que, vous voyez, quand vous avez parlé des milliards, il y a aussi le cannabis à l'intérieur. Et c'est la plus grosse des drogues. C'est ça qui nourrit aussi tout le cartel. Donc on ne peut pas dire qu'on soit plus laxiste d'un point de vue des usagers, même on fait partie des plus répressifs quand on se compare dans les pays européens. On n'est pas laxiste sur les banques, au contraire, on les contrôle énormément et donc tout le blanchiment ne passe pas par le système bancaire. Là où on est très laxiste, c'est sur les ports et donc vous voyez, ça ne se gagne pas ni dans la rue ni dans les banques, ça se gagne dans les ports, la lutte, ça se gagne aussi dans les flux financiers autres que bancaires et ça se gagne dans la prévention.
Les crypto
dans les crypto-monnaies, plus dans la prévention que dans la répression.
Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord et pas d'accord, Eric. Moi, je reste persuadé que la sanction est insuffisante. 200 euros.
La sanction des usagers ?
Des usagers,
ça
oui.
Ça ne marche pas. Alors, non, ça, il faut la vraiment.
Ça peut être un peu dissuasif quand même.
Ah non, mais regardez, la France est le plus usagée dans les cannabis et on a la consommation la plus importante.
200 euros, je trouve que c'est pas.
Mais ça ne marche pas.
On ne vous met pas d'accord là-dessus. Quoi d'autre ? Non, mais Jacques-Olivier, vous disiez, il y a d'autres choses. Eric, il incrimine quand même. Enfin, il incrimine. Il met en lumière un laxisme.
Disons, moi, je vois trois choses. On attaque en amont de la vente. C'est-à-dire, on s'attaque au niveau des ports, essayer de détecter le maximum, d'accord ? Ensuite, il y a les sanctions des consommateurs. Finalement, c'est l'offre et la demande. Et puis en aval, c'est comment on essaie de capter l'argent, cet argent qui est récupéré, ces milliards. Et là, il y a des méthodes différentes. Il y a une méthode italienne dont on parle beaucoup, la méthode des mafias, qui consiste finalement à faire des saisies préventives. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles en France et qui auraient, semble-t-il, marché pour les mafias en Italie. Donc ça, c'est pour toucher les milliards qui vont circuler de cette économie qui est une économie où on veut simplement gagner des milliards.
Jacques-Olivier Martin et Eric Heyer, j'ai appris plein de choses. Ils ont fait le débat dont n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de industrialización
en unemployment and lower job creation.
Comment l'économie tournera peut-être différemment demain ? Ce matin, le Mageco se rend au Brésil, évidemment, pour la COP.
Que quem determinar o prazo, que cada país seja dono de determinar as coisas que ele pode fazer dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades. Mas que nós estamos falando sério. É preciso que a gente diminua a emissão de gás de efeito estufa.
C'est le président brésilien jeudi à Belém. Chaque pays a le pouvoir de déterminer ce qu'il peut faire avec ses limites, dit Lula. Mais il faut être sérieux. Nous avons besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais bien sûr, c'est le cœur du sujet. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Vous avez suivi cette COP30 pour France Inter. Entre les États qui ont du mal à avancer et les entreprises qui viennent promouvoir des solutions technologiques pour le climat, on appelle ça la Green Tech, on appelle ça aussi la Clean Tech. Et alors Sandy, parmi toutes les offres, cette fois-ci à Belém, vous avez vu une véritable montée en puissance des promoteurs des technologies de captage de CO2.
Oui, il y a quelques années, au COP, ils étaient regardés de travers. C'était encore de la science-fiction. Désormais, ces technologies qu'on appelle aussi à émissions négatives ont pignon sur rue. Même le GIEC dit qu'il faudra une dose de captage industriel en insistant en petite proportion pour décarboner des secteurs très polluants comme le ciment et l'acier. Alors ici à la COP de Belém, une ONG de défense de l'environnement a dénombré des représentants de 500 entreprises et institutions du secteur. Ça va de l'extraction du CO2 directement dans l'air, mais c'est surtout du CCUS. On capte le CO2 généralement sur les cheminées des industries polluantes pour ensuite le stocker sous terre ou bien le transformer en autre chose. Et ce CCUS, c'est plus de 4 milliards de dollars d'investissement en 2024, plus 35% par rapport à 2023. Sauf que pour l'instant, ces technologies n'ont pas encore fait leurs preuves à grande échelle. Il y a peu de projets dans le monde, ils sont coûteux. Pour vous donner une idée, les installations actuelles représentent une capacité de capture annuelle de 50 millions de tonnes de CO2. Si j'ai bien calculé, c'est environ 0,05% des émissions mondiales par an. La crainte, c'est aussi que ces technologies nous détournent du véritable objectif de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'ONG Ciel que j'ai croisé ici à la COP, c'est même un permis à continuer de polluer comme avant.
Sandy Dauphin avec nous de Belém au Brésil. (Musique) 9h34 sur France Inter, c'est le moment de notre plongée dans le monde des agences de notation. Dans moins de 10 minutes, le vice-président du risque souverain et analyste principal de Moody's pour la France, Peter Briemann, est notre invité. La mission des agences, vous le savez, c'est d'émettre des notes pour conseiller les investisseurs sollicités par des entreprises, des villes ou des États. Et en fonction du risque, les marchés font payer plus ou moins d'intérêts. Pour la France, par exemple, c'est un très gros sujet. La charge de la dette pourrait grimper à plus de 59 milliards d'euros en 2026. Ce serait le deuxième poste budgétaire de l'État après l'éducation nationale. La meilleure note, c'est le triple A. La France l'a perdu en 2012. Depuis la rentrée, c'est même le double A qui nous a été retiré par Fitch en septembre et S&P en octobre. L'agence Moody's, elle, nous le conserve, mais depuis un mois, elle l'a sorti d'une perspective négative. Voilà, c'est notre automne de mauvaises notes. L'élève France n'a pas une croissance formidable, il ne maîtrise pas ses finances publiques, alors la sentence des agences, eh ben, elles le font reculer dans le classement. Mais quel est l'impact de ce verdict? Et par exemple, la dette française, est-ce qu'elle fait moins envie aujourd'hui? C'est ce qu'a voulu savoir notre reporter Alexis Morel, en poussant d'abord les portes d'une salle des marchés lors d'une vente. On y est.
5 ans en loyer, 17 ans, petit. 17 ans, c'est petit. 25 millions.
17, 17 ans, c'est bien. Pour combien? Pour 25 millions?
Pour 25.
Je m'appelle Nathalie Fillet et je m'occupe de la relation avec l'agence France Trésor pour la gestion de la dette pour la banque BNP Paribas. Nous sommes dans la salle de marché de BNP Paribas, donc on traite tous les produits taux et en particulier la dette française.
Alors je décris un peu pour nos auditeurs, donc on est dans une salle qui fait bien 1000 mètres carrés. On a des gens qui sont face à des très très grands écrans, on voit beaucoup de chiffres, beaucoup de courbes qui descendent, qui montent, des camemberts, des graphiques.
Donc là, vous avez les desks de traders et de vendeurs qui sont dédiés aux produits des dettes européennes. Notre rôle, BNP Paribas, c'est donc d'aider l'État français à écouler sa dette auprès des investisseurs finaux qui sont nos clients. Ça veut dire qu'on va se faire rencontrer Bercy et des investisseurs qui ont de l'épargne et qui vont aller placer cette épargne en achetant des obligations d'État.
Donc en achetant des titres de la dette.
Des titres de la dette, exactement.
Donc là, on a un rendez-vous à 14h50. Il se passe quoi exactement à 14h50?
Les 15 banques qui sont engagées à acheter et redistribuer la dette, on est tous reliés à un système à Bercy. Et donc, on va mettre nos prix et la quantité d'obligations qu'on veut acheter.
C'est une vente aux enchères.
C'est une vente aux enchères, c'est exactement ça. Après, donc, l'agence qui gère la dette de l'État va recevoir toutes ces offres et va vendre au plus offrant. Donc là, nous sommes derrière le desk du trader court terme qui va mettre ses offres dans le système. D'accord. Donc il va mettre un montant pour une obligation avec un prix pour cette obligation.
Il reste 5 secondes avant 14h50.
Voilà.
C'est fini là.
Voilà, ça c'est fini. Donc maintenant on va attendre que l'agence France Trésor dépouille toutes les offres que les banques lui ont envoyées dans le système. Ah voilà, c'est sorti. Alors, ils nous mettent par obligation combien a été émis. Donc, ils ont émis 3,2 milliards, donc le maximum qu'ils voulaient faire. Même chose, entre 0 et 400 pour la deuxième obligation, ils ont émis 400. Donc c'est de nouveau une adjudication qui se passe très bien.
La dette française s'écoule.
S'écoule très bien, voilà. Tout ce système qui est quand même très robuste permet de pouvoir écouler la dette de façon fluide. L'État français, l'agence France Trésor, émet toujours ce qu'ils veulent émettre à chaque opération.
Toujours autant de demandes donc pour la dette tricolore. Même dégradée, la France échappe pour l'instant à une réaction trop sévère des marchés, car elle dispose de fondamentaux solides, une économie diversifiée, un secteur bancaire en bonne santé, la protection de la Banque Centrale Européenne. Mais des signaux faibles clignotent, comme l'augmentation lente des taux d'intérêt auxquels la France emprunte. De 2,4% fin 2023, on est passé aujourd'hui à environ 3,4%. Et si la tendance concerne tous les pays européens, le taux français est désormais parmi les plus élevés de la zone euro.
John Plassard, je suis responsable de la stratégie d'investissement dans la banque privée qui s'appelle Cité Gestion et je suis aussi associé de la banque.
Et pour ce conseiller de la place financière genevoise, la France pourrait basculer à terme dans une situation d'une toute autre gravité.
On a l'impression aujourd'hui qu'on est dans une phase de complaisance face à la notation française. On a l'impression qu'il ne peut rien arriver à la France et à sa dette parce qu'on sait que les fondamentaux sont théoriquement beaucoup plus solides en France que nos voisins, notamment du Sud. Mais il ne faut pas oublier que les agences de notation abaissent ou remontent une note sur trois éléments. Et dans le cas de la France, c'est trois faiblesses. D'abord, une dette excessive. On sait que la dette française sera encore plus excessive à l'avenir sur une croissance molle. Et puis aussi une instabilité politique. Et les agences de notation sont à l'affût pour baisser encore potentiellement la note. On pourrait basculer théoriquement dans une catégorie où de nombreux investisseurs ne pourraient plus investir dans la dette française, des fonds de pension et les caisses de retraite qui n'ont plus le droit d'investir dans de la note qui est en dessous de la catégorie A. Et ça, ce serait dramatique, ce serait une crise de solvabilité majeure et ça, c'est dangereux.
Si nous n'en sommes pas du tout là à ce stade, les dégradations par les agences cet automne ont tout de même déjà des conséquences en cascade sur une multitude d'acteurs publics. En premier lieu, les collectivités locales, villes, départements, régions. C'est moins connu, certaines d'entre elles sont aussi évaluées par les grandes agences et elles subissent de plein fouet les mauvaises notes de la dette souveraine.
Dans quelques instants, nous arriverons en gare de Chambéry-Châles-les-Eaux à la voie.
Direction la Savoie.
La descente du train s'effectuera côté gauche dans le sens de la marche.
Alors là, je suis dans la grande salle de délibération du conseil départemental. On est en plein débat d'orientation budgétaire, donc pour fixer le budget de l'année prochaine, mais aussi les grandes orientations des années suivantes. On a rendez-vous à la sortie, notamment avec le monsieur finance du département.
Je voudrais l'écriture de ce rapport en remerciant nos services des finances du travail accompli dans ce magma de chiffres et de réglementations.
Pascal Bellemin, donc je suis directeur des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques du département de la Savoie, et par ailleurs président de l'AFIGES, donc une association qui regroupe des praticiens territoriaux dans les domaines des finances et du management public.
J'ai donc découvert que les collectivités peuvent elles aussi être notées par des agences de notation et par les grandes agences qu'on connaît. Pourquoi ?
Il y a deux principales raisons. La première et la principale, c'est de pouvoir émettre des obligations pour se financer, c'est-à-dire d'aller directement sur le marché financier comme l'État. Et donc l'investisseur a besoin de l'avis d'une agence pour être sûr de la solvabilité de la collectivité. Ça permet d'alimenter aussi une communication institutionnelle, ça c'est clair.
Un petit intérêt, si je puis dire, marketing.
Oui, c'est ça. Rassurer le prêteur.
Dans le cas du département de la Savoie, quelle est votre note officielle aujourd'hui ?
Nous devrions être triple A, c'est-à-dire la note qui est vraiment représentative de notre qualité de gestion. L'agence de notation calcule cette note propre à la collectivité, mais est obligée d'afficher la note A+, parce que les collectivités locales ne peuvent pas avoir une note supérieure à celle de l'État. Ce plafonnement, il s'explique par le fait que les collectivités sont dépendantes de l'État tant pour l'exercice de leurs compétences que pour leurs ressources. Et donc, un abaissement de la note de l'État génère potentiellement une augmentation des taux d'intérêt pour l'État. Et la conséquence pour les collectivités, c'est que les taux d'intérêt qui leur sont appliqués se calent sur les taux pratiqués pour l'État.
Qu'il s'agisse des collectivités locales ou de l'État, faut-il alors s'interroger sur la valeur de ces notations et même la crédibilité de celles qui les attribuent ? La question se pose régulièrement.
Les agences de notation ne donnent plus vraiment le ton.
Éric Dor est directeur des études économiques à l'école de commerce IESEC Business School.
Les agences de notation ont été fort critiquées lors de la crise financière dite des subprimes et ensuite lors de la crise des dettes souveraines de la zone euro. On leur a reproché d'être un peu des pyromanes. Et finalement, il est bien possible qu'elles aient été quelque peu échaudées par toutes ces critiques et qu'elles soient devenues plus prudentes. Les grands investisseurs en dette publique n'ont pas vraiment besoin des agences de notation pour formuler leur propre appréciation. Leurs propres équipes sont capables de faire leur diagnostic. Et donc, les dégradations n'apportent pas vraiment d'informations au marché. Elles ne font que confirmer ce qu'ils savaient déjà. Et c'est pour ça qu'on voit que les marchés ne réagissent plus. Si on prend le cas de la France, ça fait déjà assez longtemps que les marchés exigent de pays pourtant moins bien notés que la France, comme par exemple le Portugal et l'Espagne, des taux d'intérêt qui sont inférieurs à ceux qu'ils exigent de la France. Ça veut donc dire que finalement, elles sont en retard sur l'appréciation que les marchés avaient déjà formulée et concrétisée par les taux d'intérêt qu'ils exigent.
Un automne de mauvaises notes. Quelles conséquences après la dégradation de la France ? C'était le reportage d'Alexis Morel.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et maintenant, la parole à une agence de notation. On continue la réflexion avec notre invité, c'est une parole rare. Bonjour Peter Bremann.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes vice-président du groupe Risque Souverain à l'agence Moody's. Ça veut dire que c'est vous qui supervisez la note de la France, le pays, pas les collectivités. Voilà. Ça, c'est encore une autre équipe. Il y a donc trois grandes agences de notation sur la planète, S&P. Oui. Fitch et Moody's, et depuis septembre, les deux premières ont enlevé le double A à la France. On est classé simple A avec elles. Et vous, votre agence, fin octobre, nous conserve ce double A, mais avec une perspective négative. Oui. Alors, Peter Bremann, en langage profane, dites-nous, est-ce qu'on reste des bons élèves ou pas ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Par exemple, le gouverneur de la Banque de France lui dit « on est en risque d'étouffement progressif ».
Alors là, c'est tout à fait que nous avons changé la perspective de la note. Cela veut dire qu'il y a des risques qu'on veut mettre en évidence qui pourraient à terme conduire à une dégradation de la note. Et là, il y a surtout trois types de risques dont on parle. Il y a le risque d'un affaiblissement des institutions françaises, le risque d'une prolongation de la suspension de la réforme de retraite, et également, il y a un risque que l'évolution des indicateurs budgétaires sera plus négative que nos attentes actuelles.
Ça veut dire qu'on n'arriverait pas à réduire le déficit, c'est ça?
Bah, effectivement, ce qui est vraiment important pour nous, c'est la charge de la dette.
Ça veut dire les taux d'intérêt qu'on paie à nos créanciers, c'est ça?
Voilà, c'est le coût total de l'intérêt que paie le gouvernement par rapport à recettes et par rapport au PIB. C'est ça qui est vraiment l'indicateur important pour nous.
Alors, on va revenir à la situation du budget et à comment vous regardez notre trajectoire budgétaire. Ouais. Mais expliquez-nous, Peter Bremann, comment est-ce que ça se note un pays ? Vous êtes en responsabilité de la France et de beaucoup d'autres pays. Oui. Est-ce que vous êtes tout seul ? Est-ce qu'il y a une équipe ? Est-ce que vous faites des rencontres ? Est-ce que vous avez des documents ?
Alors, moi, je suis l'analyste principal pour la France, comme vous l'avez dit. J'ai des collègues qui m'aident avec l'analyse, avec préparer les données, etc. Et c'est très important à noter également que les décisions des notations sont prises en comité. Donc c'est une décision collective de Moody's par vote majoritaire. Donc c'est pas juste que moi je rentre après quelques réunions et je dis ouais, ok, je vais monter la note. C'est pas du tout ça. Mais moi, en tant qu'analyste principal, je suis responsable pour faire une recommandation à ce comité de notation. et après il y aura un débat, et à la fin il y a un vote. Et en ce qui concerne le travail préparatoire, donc ça se base en partie de notre propre analyse sur des données, notamment, je pense qu'en France, c'est des données publiques, des documents publics qu'on utilise. Mais également, on a bien entendu, on a des réunions avec les autorités pour discuter leurs perspectives et également pour leur transmettre notre point de vue à nous.
Longtemps, on a dit que les agences, elles étaient trop indulgentes avec la France, qu'en 1980, on avait 20% de dette, là, on est quasiment à, on sera bientôt à 118%. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là ?
Bah non, je peux vous expliquer exactement comment, pourquoi on note toujours la France à double à 3.
C'est encore une assez bonne note quand même.
Oui, oui, tout à fait. C'est également important à comprendre que les notations sont une mesure du risque relatif, pas un risque absolu. C'est-à-dire que la comparaison aux autres pays est très importante pour la notation. Et donc, par exemple, comme j'ai déjà évoqué, ce qui est important pour nous, pour la France, c'est la charge de la dette. Au niveau de double à 3, il y a également, par exemple, le Royaume-Uni, qui paie toujours un taux d'emprunt beaucoup plus élevé que celui de la France, et la charge de la dette est beaucoup plus élevée. Et donc, ce sont des aspects comme ça qui ne sont peut-être pas tout à fait accessibles au grand public, qui sont très importants et qui expliquent également pourquoi la note reste double à 3.
Et si on regarde toujours les côtés positifs, les atouts de la France, on est toujours sur l'idée que l'impôt rentre bien, il y a des bonnes infrastructures, il y a un bon système bancaire, c'est ça les atouts de la France ?
Bah oui, ça, et en général, nous pensons que toujours l'économie française, même si la croissance est plutôt modérée en ce moment...
On sera plutôt à 0,9 l'an prochain, c'est ça,
ouais,
c'est
les prévisions. Près, oui. Ouais. Que l'économie en soi, ça reste un atout, parce que c'est toujours une économie riche, diversifiée, il y a pas mal d'entreprises compétitives à l'échelle globale. Voilà, ça ne change pas chantier, même si la croissance est un peu atone en ce moment.
Donc, Peter Brimann, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous nous dites la charge de la dette.
Oui.
On emprunte, là, on va encore emprunter 310 milliards d'euros au marché pour 2026. C'est notre ambition. Et on va payer plus cher. Donc, ça, vous dites que ça va peser lourd.
Non.
Et en quoi c'est inquiétant ?
Pour la perspective négative, c'est tout d'abord les institutions.
Ça veut dire l'instabilité politique ?
C'est un effet de l'instabilité politique.
Alors, expliquez-nous.
Donc, c'est important de savoir comment est construit les notations. Donc, ils sont axés sur quatre facteurs de notation. Il y a la solidité économique, la solidité des institutions et gouvernance, la solidité des finances publiques et l'exposition aux risques événementiels. Et chacun de ces facteurs, on les note, on accorde un score à la même échelle qu'on utilise pour la note globale. Et là, on voit avec la situation politique actuelle en France... Pour nous, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste dire, que c'est du bruit politique, que c'est juste de la turbulence. Mais plutôt, c'est un signe que les institutions peinent à s'adapter à un paysage politique qui a beaucoup changé. Et ils peinent à continuer à fonctionner efficacement dans ce nouveau contexte.
Pour vous, le regard a changé de Moody's sur la France depuis la dissolution. C'est ça le moment où vous vous dites les institutions, ça ne va... Il y a un problème sur les institutions.
Je pense que cela a aggravé le problème. Je pense que maintenant, le Parlement se trouve dans un état pas très habituel. Normalement, le système électoral produit des fortes majorités. Et maintenant, on a cette fragmentation parlementaire. Il me semble que les partis et les institutions ont un peu du mal à s'adapter à cette nouvelle situation.
Et ce qui vous inquiète, est-ce que c'est la politique ou est-ce que c'est le fait que cette situation politique gêne le processus de réduction du déficit ?
Le souci, c'est que l'instabilité politique pourrait durablement affaiblir les institutions. C'est également les effets potentiels sur les indicateurs budgétaires, dont le déficit, le poids de la dette, mais également, comme j'ai déjà dit, la charge de la dette, qui est vraiment ce qui compte pour nous.
Et lorsque, vous l'avez mentionné, lorsque une réforme comme la réforme des retraites est suspendue, c'est le prix de la stabilité actuelle. En ce moment, ça a été la stabilité contre une suspension de la réforme des retraites.
Oui.
Il y a un grand débat en France pour savoir si le prix est trop élevé ou pas. Est-ce que c'est exactement le genre de question que vous vous posez aussi ?
Oui, à notre avis, la suspension est une conséquence de l'instabilité politique. Et voilà, une suspension en soi, ça ne coûte pas énormément cher. Je pense que le gouvernement a publié un chiffre en 2027, un coût pour le budget de 0,05% du PIB. Donc, ce n'est pas un coût énorme. Mais notre souci, c'est vraiment que cela dure plus longtemps que prévu, que la suspension se prolonge. Et là, à terme, les coûts pour le budget et pour l'économie française sont très importants.
On parlait de la réforme des retraites. À grands traits, pour savoir comment, avec quelles lunettes vous regardez en tant qu'agence de notation, et vous êtes une agence américaine, il y a ceux qui veulent taxer plus les entreprises et suspendre la réforme des retraites, il y a ceux qui considèrent au contraire que la France n'a plus les moyens de son État-providence. Est-ce que pour réduire le déficit, quand on est une agence américaine, tous les chemins politiques sont bons, ou est-ce que par essence, on est pro-business et on a un prisme libéral ?
Alors, nous ne pouvons pas dire donner des conseils. C'est réglementé. Donc, je ne peux pas dire au gouvernement, vous devez faire comme ça ou comme ça. Voilà. Mais quand nous évaluons une réforme, nous regardons par le prisme de nos quatre facteurs. Donc, il n'y a pas forcément une perspective pro-business ou quoi que ce soit.
Vous dites on est neutre.
Bah, nous expliquons clairement dans notre méthodologie ce qui compte pour nous. Et là, on fait l'analyse à la base de ça.
Peter Brimann, vous regardez avec, j'imagine, beaucoup d'attention les discussions en ce moment au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous, on a du mal à y voir clair. Est-ce que vous savez où ça va atterrir ? Comment vous jugez la copie en ce moment ?
Non, effectivement, nous, bien évidemment, nous faisons des prévisions pour les indicateurs budgétaires, et j'avoue, comme analyste principal pour la France, c'est pas tout à fait facile.
Et alors, la façon dont ce budget passera, c'est-à-dire, est-ce qu'il passera par vote, est-ce qu'il passera par ordonnance ou loi spéciale, est-ce que pour vous, ça aussi, il y a une incidence sur votre notation ?
Je pense pour nous, ce qui compte, c'est, en fin de compte, quel sera le contenu du budget adopté. Et si c'est ce budget adopté en décembre ou en janvier, en février comme l'année dernière, c'est pas vraiment ça qui est important pour nous, c'est le contenu du budget qui est vraiment important.
Le but affiché est d'arriver sous les 5% de déficit en 2026, c'est ça que vous allez regarder ?
Alors nous, notre prévision pour 2026 actuellement, c'est 5,2%, donc une prévision plus conservatrice que celle du gouvernement. Mais là encore, ce n'est pas le déficit en soi qui est important, c'est vraiment la charge de la dette qui est très important, c'est l'indicateur principal.
Dernière question, Peter Brimann. Ça fait un siècle qu'on reproche aux agences, parce que les agences ont un peu plus d'un siècle d'existence. Mm-hmm. On leur reproche soit de n'avoir rien vu, alors ça c'était Enron, c'était les subprimes, ou au contraire d'aggraver les crises, ça on l'a vu avec la Grèce en 2010. Et maintenant, vous écoutiez le reportage avec moi, certains pensent que les agences de notation n'ont plus beaucoup de poids. D'ailleurs, en 2012, le AAA a été retiré à la France, et puis le ciel ne s'est pas écroulé.
Ouais.
À vos yeux, est-ce que les agences de notation, elles encore vraiment ?
C'est pas vraiment à moi de dire, mais...
justement, je crois... Si, la parole aux agences de notation, là, ce matin.
Effectivement, c'est une question pour les investisseurs qui utilisent nos notations dans leur travail. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai toujours beaucoup de contacts avec des investisseurs qui sont très intéressés à notre notation, à nos opinions, et qui ont beaucoup de questions. Et de ce sens-là, il me semble que les notes compte toujours, que c'est toujours un aspect très important.
Du système. Le regard de Peter Brimann, l'analyste principal de Moody's à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, vous zoomez ce samedi sur les classes actions à la française. Jusqu'ici, les actions de groupe qui concernent le monde du travail n'ont pas rencontré un franc succès, mais vous nous dites que ça pourrait changer.
Bon, nous n'avons pas encore notre Erin Brockovich à nous, incarnée au cinéma par Julia Roberts. Cette célèbre avocate avait réussi à prouver que deux compagnies de gaz et d'électricité avaient pollué l'eau potable de la ville d'Hinckley en Californie. En 1993, 333 millions de dollars avait dû être versé à des centaines de victimes regroupées dans une gigantesque class action. Au début des années 2000, on se souvient aussi des 340 femmes, toutes salariées de Morgan Stanley. Elles avaient attaqué la banque d'investissement pour discrimination et harcèlement sexuel dans ses salles de marché. L'entreprise avait fini par transiger et leur octroyer une indemnisation de 54 millions de dollars. Évidemment, chez nous, les actions de groupe, c'est relativement nouveau. Elles existent depuis 10 ans. Je rappelle le principe. Il s'agit d'indemniser les préjudices individuels subis par un ensemble de victimes qui sont représentées par un syndicat ou une association de consommateurs. Le résultat n'est pas glorieux. Il y a 2 ans, un rapport parlementaire comptabilisait 32 actions de groupe intentées depuis 2014 et seules 6 d'entre elles avaient obtenu un résultat positif.
Mais Sandrine, vous nous avez promis du changement.
Oui, alors déjà, les bonnes nouvelles nous viennent d'Europe. À l'occasion de la transposition de plusieurs directives, la loi DADU d'avril 2025, c'est son petit nom, élargit le cadre juridique des actions de groupe. Depuis 2016, en matière de droit du travail, elles étaient limitées aux discriminations. Elles peuvent désormais être utilisées pour toute violation du droit commise par un employeur, que ce soit le non-paiement d'heures supplémentaires ou une mauvaise application d'un accord d'entreprise. Les juges peuvent aussi prononcer la réparation intégrale des préjudices individuels des salariés. Les plaignants n'ont plus à passer ensuite devant le conseil de prud'homme individuellement pour être indemnisés. C'est une sacrée simplification. L'autre front vient d'être ouvert le 5 novembre par la Cour de cassation dans une action de groupe qui oppose la CGT à la direction de Safran Engine Aircraft. Les magistrats ont considéré que des faits de discrimination syndicale antérieurs à la loi de 2016, mais qui ont continué à produire leurs effets depuis, devaient être examinés. Ça ouvre la porte à de nouveaux contentieux, mais il faut quand même savoir que les actions de groupe durent longtemps. L'affaire de Safran a commencé il y a 7 ans et elle est loin d'être terminée.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, toute l'équipe du Mag Éco vous souhaite un bon week-end.